Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Ça avance du côté de la gare, les pourparlers ont bien avancé entre la ville et la SNCF, on en parlera en seconde partie d'émission, mais tout de suite on accueille une structure en difficulté. On avait relayé d'ailleurs la difficulté de Jazz à Poitiers déjà, et là c'est une autre structure du confort moderne qui est avec nous aujourd'hui en la personne de Andrew Hales, directeur de la Fanzinothèque. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, ce n'est pas forcément pour une bonne nouvelle, mais c'est aussi important de parler de ces choses-là. Alors, la Fanzinothèque, que se passe-t-il? Dites-nous, est-ce que c'est comme toutes ces structures culturelles, problème de subvention?
Voilà, on se retrouve dans la même situation que beaucoup de structures culturelles et même plus largement de tout le secteur associatif. On arrive à un moment où les subventions n'ont pas évolué depuis plusieurs années et qu'en même temps, toutes les charges de tout genre augmentent. Et donc pour nous, ça s'est traduit avec plusieurs années déficitaires de suite. Et là, on arrive à un moment où on ne peut juste plus continuer comme ça, en fait.
Alors, qui sont vos principaux financeurs?
Alors, le plus grand financeur de loin, c'est la ville de Poitiers. On a de la chance d'être soutenu par la ville de Poitiers pour quasiment tous nos fonctionnements depuis plus de 35 ans maintenant. Et donc, c'est exceptionnel. On existe grâce à ça. Et en plus de ça, on a des subventions au projet et un tout petit peu de fonctionnement de la région et également de la DRAC, Nouvelle-Aquitaine, et ponctuellement aussi du département sur certains événements.
Donc, subventions qui n'ont pas baissé, mais qui malheureusement n'ont pas non plus augmenté, c'est ça ?
Voilà, ça ne bouge pas, mais depuis longtemps. Donc, ça commence à poser des problèmes.
Parce que revalorisation salariale, parce que hausse des coûts des fluides, vous avez subi toutes ces choses-là ?
Tout est en hausse, tout. Que ce soit les fluides, effectivement les hausses des salaires conventionnels, alors qu'on reste avec des salaires qui sont largement très en dessous de ce qui se pratique dans ce secteur. Et aussi, bon, les matières premières, on a l'atelier de sérigraphie, on utilise beaucoup de papier, donc c'est quelque chose qui a énormément augmenté depuis quelques années. Donc tout ça, ça se combine et c'est juste de plus en plus difficile.
Et de qui est composée l'équipe salariée aujourd'hui?
Alors on est 5, donc moi je suis le directeur, on a 2 documentalistes qui gèrent la collection, on a une chargée d'administration et on a une sérigraphe. Et en plus de ça, on a 2 services civiques sur 8 mois de l'année qui nous apportent une aide qui est bien précieuse aussi.
Et à part les subventions des collectivités locales, est-ce que vous avez d'autres rentrées d'argent?
On a environ entre 20 et 25% de ressources propres qui sont générées par l'atelier de sérigraphie, donc soit des productions de sérigraphie, des badges et d'autres objets, soit les ateliers, des médiations qu'on va mener avec des groupes scolaires ou d'autres.
C'est vrai que la Fanzinothèque est peut-être connue à Poitiers, mais en fait, elle a une envergure nationale, voire internationale.
Voilà, c'est pour ça qu'on cherche un peu un financement de subventionnement de la part de l'État, du ministère de la Culture, parce qu'on a un patrimoine qui est unique au monde et qui a un rayonnement international. Donc on n'est pas une bibliothèque de quartier qui devrait être financée, même à cette hauteur de la ville de Poitiers. On cherche vraiment d'être reconnu au niveau national et de recevoir une subvention de fonctionnement pérenne pour reconnaître le patrimoine qu'on gère depuis 35 ans maintenant.
Est-ce que ces demandes-là, est-ce qu'être reconnu effectivement comme une référence au niveau national, est-ce que ça, on vous entend?
Alors, on nous entend, on a des bonnes relations avec la DRAC, la région, etc. Mais ils ont leurs propres problèmes financiers. Et si on ajoute à ça le contexte politique qui, depuis quelques semaines, est devenu encore plus flou, l'avenir n'est pas très réjouissant, il faut le dire.
Quels sont les risques aujourd'hui pour la Fanzinothèque? Est-ce que ça peut aller jusqu'à une fermeture?
Alors, dans le média, on a réduit nos heures de travail. Et donc, on est fermé les lundis depuis le mois d'avril. On a baissé les heures de travail. Donc, moi, je ne suis plus à plein temps. Donc, on n'a plus aucun salarié à plein temps.
Donc, réduit votre salaire.
Exactement. Et en plus, on a annulé notre festival cette année, qu'on fait depuis 3 ans.
Festival qui était en été, hein?
Oui, voilà, c'était en fin août. Et donc, c'était un choix difficile, mais c'était vraiment le plus grand poste où on pourrait faire des économies tout de suite. Et là, pour l'année prochaine, pour l'instant, ce qui se profile, c'est que notre documentaliste Marie Bourgoin, qui est là depuis la fondation de l'association, va partir à la retraite et on ne pourrait pas la remplacer. Donc, on va commencer à baisser l'équipe de salariés. Et donc ça, c'est pour dans le média l'année prochaine. Et après, si rien ne bouge, il faudra continuer. Donc c'est vraiment le projet associatif qui rétrécit.
Alors vous êtes une association. Comment se positionne votre conseil d'administration? Il vous soutient? Il est inquiet? Quelles sont ses démarches?
Oui, on est très soudés avec notre conseil d'administration. On a des bénévoles qui sont très impliqués, qui nous aident de plus en plus. Mais c'est pas suffisant. Enfin, si on revient à comme on était au début avec plus de bénévoles, ce sera plus le même projet associatif.
C'est un retour en arrière, en fait.
Voilà, le fait de garder, de gérer cette collection, de le valoriser, ça demande un travail professionnel de plusieurs personnes. Et même si on a besoin des bénévoles et des services civiques, on peut difficilement continuer comme on est maintenant avec moins de salariés.
Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce qu'apportent ces documentalistes, ce qu'apporte toute cette équipe salariée pour ce patrimoine de fanzines?
Alors, on a donc une collection de 60 000 documents, qui est probablement la plus grande collection de fanzines au monde. Et notre documentaliste Marie, qui va partir l'année prochaine, elle est un peu la mémoire vivante de tout ce milieu en France. Et donc, c'est elle qui, jusqu'à là... gérer cette collection, la valoriser avec l'aide de notre deuxième documentaliste Gregor, qui est là depuis moins longtemps. Et c'est vraiment c'est compliqué parce que c'est un domaine c'est que les documents amateurs qui n'existent en très peu d'exemplaires. On ne peut pas s'appuyer sur d'autres bibliothèques pour des référencements, des catalogages et tout ça. C'est vraiment quelque chose que nous on fait et on est devenu une référence dans la matière. Et on ne peut pas gérer 60 000 documents avec une seule personne. En ce moment, on reçoit environ 3 000 documents par an. Et donc, ça grandit. Et on ne peut pas revenir en arrière maintenant.
C'est vrai qu'il y a des gens, des chercheurs, des personnes qui travaillent sur ces fanzines qui peuvent venir du monde entier à la Fanzinothèque.
On a déjà acquis des gens de Berlin, de Canada. On a 3 chercheurs qui viennent la semaine prochaine de Paris et de Nîmes pour travailler sur un fanzine qui est sur les fanzines, en fait. Donc, on a de plus en plus de monde qui passe. Il y a de plus en plus de thèses qui sont écrites sur le sujet des fanzines en tant que telles. Et donc, c'est un domaine qui prend de l'ampleur parce qu'il y a... Il y a maintenant, depuis des années punk, des années 80, il y a 40 ans maintenant de choses à étudier.
Et c'est ça, et ces fanzines, peut-être même dans le contexte actuel, ils ont une place particulière parce que ça a toujours été un petit peu ce côté revendicatif, indépendant, libre.
Oui, c'est toujours d'actualité. Et puis ce qu'on voit plus récemment, c'est que les fanzines politiques, ils vont revenir à l'objet papier parce que l'espace numérique, ils trouvent que c'est trop surveillé. Et donc, il y a vraiment un renouveau dans les milieux queer, écolo, féministes, ou contre les bassines, par exemple, des choses politiques, un peu où ils veulent revenir à cette communication par des objets papier qui se passent entre deux mains en main, au lieu d'utiliser l'espace Internet pour communiquer.
Alors, quelle est la suite? Comment vous aider? Comment vous voyez, là, les prochains mois?
Alors, pour l'instant, on a demandé des images à des artistes amis. Donc, on va partir sur une trentaine ou une quarantaine d'images qu'on va imprimer en sérigraphie et qui feront l'objet d'une expo vente à la fin de l'année pour soutenir l'association. Mais on a déjà plein de choses en vente, de sérigraphie chez nous. Et donc, le meilleur moyen de nous aider, c'est soit adhérer, donc c'est 10 euros par an, soit venir chez nous et acheter des super objets d'art pour pas très cher. La sérigraphie, c'est un art abordable pour tout le monde. Et j'invite tout le monde à venir nous découvrir cet été. On sera ouvert tout l'été, mais pas les lundis. et regarder ce qu'on a à vendre. Et puis, on a aussi une super expo en ce moment de Stripburger, qui est une collective slovène d'artistes de bande dessinée qui publie un magazine depuis 30 ans.
Merci beaucoup, Andrew Hills, d'être venu nous parler de ces difficultés donc de la fanzinothèque. Vous en êtes le directeur. Et donc, voilà, allez voir ces fanzines cet été, adhérez, voilà les moyens de vous soutenir et puis et participer en achetant peut-être des sérigraphies qui vous tapent dans l'œil. Merci beaucoup.
Merci.
On continue en musique avec Joy Dari. C'est une musicienne et chanteuse autodidacte qui faisait partie du groupe Sun Visors. Et puis, après, avec le succès, elle a pu aller dans pas mal de festivals et maintenant elle a décidé de se mettre à son compte, de chanter toute seule en solo. Voici Joy Dari, le titre Pas la même.
Qu'est-ce qu'on doit se dire pour se découvrir sans se faire rougir des regards éblouis, pour se faire un avis des scénarios toujours plus faux. Est-ce que c'est mentir de se travestir pour vous faire plaisir? On me dit que je suis pas la même personne, pas la même personne, parce que le soir je danse, je veux piller la nuit de toutes ces extravagances. Ouais, je suis pas la même personne, c'est vrai, pas la même personne. On me dit que je suis pas la même personne, pas la même personne, parce que le soir je danse, je veux plier la nuit de toutes ces extravagances. Ouais, je suis pas la même personne, c'est vrai, pas la même personne. Dans un monde ordinaire, cerné de frontières, alors qu'on voudrait vraiment pouvoir être sincère, est-ce qu'on peut guérir, arrêter d'obéir, écouter nos désirs? On me dit que je suis pas la même personne, pas la même personne, parce que le soir je danse, je veux piller la nuit de toutes ces extravagances. Ouais, je suis pas la même personne, c'est vrai, pas la même personne. On me dit que je suis pas la même personne, pas la même personne, parce que le soir je danse, je veux piller la nuit de toutes ces extravagances. Ouais, je suis pas la même personne, c'est vrai, pas la même personne. Je suis pas la même personne, parce que le soir je danse, je veux piller la nuit de toutes ces extravagances. Ouais, je suis pas la même personne, c'est vrai, pas la même personne. On me dit que je suis pas la même personne, pas la même personne, parce que le soir je danse, je veux piller la nuit de toutes ces extravagances. Ouais, je suis pas la même personne, même personne.
Pulsar 95.9.
Ah ouais.
Et pour nous parler de la transformation de la gare et de son quartier, on accueille Jérôme Thomas qui est directeur de ce projet Poitiers entre en gare pour la SNCF. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on devait accueillir aussi Bastien Bernella, élu à Poitiers, mais il n'a pas pu se joindre à nous. Donc, vous allez devoir parler aussi au nom de Grand Poitiers, puisque vous menez le projet ensemble. Alors, vous avez signé tout récemment une convention pour travailler sur ce projet. Quels sont les besoins qui ont été identifiés au niveau des infrastructures SNCF?
Alors aujourd'hui, Grand Poitiers, en effet, s'est rapproché de nous en début d'année pour nous faire part de son projet autour de la gare, parce que Grand Poitiers et la ville de Poitiers d'ailleurs réfléchissent autour de ce projet qui s'appelle Grand Poitiers entre en gare, à comment faire mieux rayonner cette partie de ce quartier de gare, en ayant un lieu de vie de qualité et en accompagnant l'évolution des usages vers des modes de vie plus durables et plus résilients, Et au centre de ce quartier se trouve la gare. Et donc, c'est à ce titre-là qu'ils ont sollicité SNCF Gares et Connexions, gestionnaire des gares. Et donc, notre objectif est de les aider à réfléchir sur comment rééquilibrer finalement les accès à la gare en aménageant et en développant notamment les accès côté ouest, côté Maillochon pour les poids de vin, en améliorant également les accès côté est, donc côté Toumaï et côté parvis de la gare. Et puis, au milieu, il y a un objet qui s'appelle la passerelle ferroviaire, qui dessert les quais, mais qui est aussi un objet qui sert à aller à relier deux quartiers de ville. Et la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait moderniser cette passerelle pour en faire un vrai lien interquartier et pour moderniser cet espace. Voilà.
Alors, la première étape, c'est une étude qui vient d'être lancée ou qui va être lancée, c'est ça, pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire ?
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Dans un premier temps, l'idée, c'est de mener une étude de faisabilité qui va durer à peu près un an, qui vient d'être lancée au printemps 2024 et qui s'achèvera grosso modo en début d'année 2025. Qui nous permettra ensuite de lancer des études plus précises sur ce qui pourra être fait dans ce secteur.
Et donc, à quoi va ressembler cette étude ? Il y a un comptage des flux, c'est essayer de comprendre comment, pour l'instant, les usagers s'emparent des infrastructures de cette gare.
Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Alors déjà, le périmètre de l'étude, je vais essayer de vous le décrire. Il est centré en fait sur la passerelle ferroviaire, mais qui est aussi la passerelle ville-ville, hein, donc cette passerelle qui a une double fonctionnalité. Donc il y a cet objet qui fait partie de l'étude, mais il y a également toute la partie qui comporte le parking Maillochon et l'îlot de la Poste. Voir comment tout ça fonctionne avec la passerelle. Et il y a également le devant de la gare, le parvis et tout l'espace Toumaï qui vont être regardés. Comment est-ce que tout ça vit ensemble finalement, et tout ça dans un périmètre élargi qu'on prend en compte également, qui va de la porte de Paris jusqu'à la Cassette et de la Boivre jusqu'au parvis de la gare. Donc l'objectif en effet, c'est de mieux connaître les mobilités et d'identifier leur devenir. Diagnostiquer également les différents espaces du périmètre d'étude, les logiques d'accès à la gare, les fonctionnalités qui sont présentes en gare et autour de la gare. Et puis, c'est bien sûr de dessiner l'avenir et dessiner les fonctionnalités attendues à plus ou moins long terme. Je dirais qu'aujourd'hui, on essaye de se projeter sur l'immédiateté, bien évidemment, donc, mais surtout à plus long terme, une fois qu'on aura... qu'est-ce qu'on peut offrir finalement au poids de vin à longue échéance. Et puis, l'idée de l'étude, c'est de proposer des scénarios de réorganisation de ces espaces, des fonctionnalités. Et à terme, la suite de cette étude, ce sera d'approfondir un des scénarios qui sera retenu par le Grand Poitiers, Ville de Poitiers et SNCF.
Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un petit peu peut-être des incohérences dans la gare actuelle. Quand on prend la passerelle, qu'on va aller sur le parvis, on ne comprend pas trop comment redescendre. Il y a des petites choses peut-être qui ne sont pas tout à fait claires pour les usagers qui ne seraient pas des habitués.
C'est exactement ça. Aujourd'hui, même nous, côté SNCF, on voit qu'il y a des incohérences. Hein. Quand vous souhaitez accéder au quai 1, c'est très complexe. Les cheminements pour les voyageurs ne sont pas aisés. On est aussi sur des espaces très contraints. On voit qu'il y a des engorgements au niveau de la passerelle lorsqu'il y a des TGV très chargés qui arrivent. Donc, en effet, c'est bien c'est se poser toutes les bonnes questions et voir comment est-ce qu'on peut améliorer et favoriser finalement aussi l'accès au train, favoriser l'intermodalité et l'attractivité du secteur.
Et dans un idéal, Grand Poitiers a acquis aussi les bâtiments qui sont donc côté Maillochon pour et rêve peut-être d'avoir une gare à deux entrées.
Oui, alors en effet, on parle de en termes techno de gare biface, ça veut dire une gare à deux entrées, tout à fait, avec la volonté étant de faire de c'est ce que nous allons vérifier, bien évidemment, mais étant de faire de Maillochon un accès, un véritable accès à la gare, ce qui n'est pas réellement aujourd'hui, favoriser également, je dirais, l'accessibilité à la gare. Côté Maillochon, aujourd'hui, on n'a qu'un seul escalier qui permet de monter sur la passerelle. Demain, si on veut une véritable accessibilité depuis ce quartier, il faudra également mettre en œuvre, installer un ascenseur pour faciliter les mobilités. Alors, on parle, je parlerai de toutes les mobilités, pas uniquement des personnes en situation de handicap, mais
oui, juste avec une valise un peu lourde.
Exactement, une poussette, un vélo, voilà, tout ce qui favorise l'accessibilité finalement. Donc, on est bien sur cette réflexion de gare biface, améliorer la relation interquartier et pour ça, on a également besoin de regarder ce qu'on peut faire sur cette passerelle. Et comme vous le disiez très justement au début de notre échange, on regarde en effet, on fait des comptages, on fait des enquêtes, mais on va également regarder d'un point de vue technique de quelle manière on pourrait élargir cette passerelle. Donc, la réflexion est poussée sur l'ensemble des domaines.
Et même sur la question de renaturation, de biodiversité, là c'est pour tout le quartier, mais aussi autour de la gare.
Alors là, je laisserai plutôt le Grand Poitiers préciser, parce que sur ce volet-là, SNCF n'a pas de compétence. Le Grand Poitiers s'est adjoint les services de spécialistes. Donc en effet, cette renaturation de la Boivre de ce quartier-là, et ils nous ont fait part également de la volonté qu'ils avaient de faire évoluer le boulevard du Grand Serre, de pacifier un peu les circulations, de renaturer cet environnement, et ça c'est mené par le Grand Poitiers directement.
Et alors, quelles sont un petit peu les dates? Est-ce qu'il y a déjà un calendrier? Donc là on en est à l'étude, après il faut se projeter sur combien d'années?
Alors généralement, alors là on est vraiment sur une étude de faisabilité, donc je vous ai dit un an la première phase, ensuite il va y avoir des choix qui vont être porté par les différentes entités qui concourent à ce projet. Ensuite, on aura des phases d'études d'avant-projet et puis des phases d'études projet. Donc, on peut compter 2-3 ans de plus pour mener ces phases. Et ensuite, viendra la phase de réalisation du projet. Avec la difficulté, c'est que dès qu'on travaille en environnement ferroviaire, le temps est long. Et vous imaginez bien que travailler sur une passerelle au-dessus des voies, ça implique d'anticiper les choses. Ça veut dire que très certainement, des réalisations seront faites à horizon de 5 à 10 ans. En tout cas, pour tout ce qui concerne le volet ferroviaire, le volet urbain, lui, pourra certainement évoluer beaucoup plus vite que ce qui sera fait au-dessus du faisceau ferroviaire.
Dans les envies politiques aussi de la municipalité et de Grand Poitiers, c'est d'en faire un lieu un peu plus vivant, avec peut-être une guinguette dans l'espace Toumaï. Ça fait partie des idées?
c'est ce que le Grand Poitiers a pu nous partager. C'est la volonté, en tout cas, de Grand Poitiers, de la ville de Poitiers aujourd'hui, d'avoir une mixité d'usage dans ce quartier, d'améliorer l'attractivité, de favoriser l'intermodalité. Donc, on est bien sur en tout cas, c'est ce qui nous a été exprimé, nous, clairement.
Et donc, vous accompagnerez, j'imagine, cette volonté. Enfin bon, c'est pas forcément dans vos compétences non plus, comme pour la renaturation.
Voilà, tout à fait. Nous, on restera sur notre domaine de compétences, les transports, en tout cas le transport ferroviaire, et on mettra tout en œuvre pour pouvoir accompagner, pour être facilitateur, en tout cas, vis-à-vis des collectivités en la matière.
Un grand merci Jérôme Thomas, donc directeur de ce projet Gare pour la SNCF, d'être venu nous en parler. Et puis ben, on espère effectivement avoir les résultats de cette étude prochainement. Belle journée.
Merci, bonne journée.
Demain, ne ratez surtout pas le Café de la Presse. Et tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. Et l'agenda est présenté par Isabelle.
Comme il est presque 13h, on vous parle d'abord de nourriture. À l'abbaye de Charroux, à l'exposition À table au Moyen-Âge ouvre aujourd'hui. Vous pourrez la visiter jusqu'au 22 septembre. L'accès coûte 5€, mais c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Ça se passe au 4 Place Saint-Pierre à Charroux. Atelier cuisine pour les aidants à Montmorillon, à 14h30 à l'espace Gartempe. Un atelier de cuisine qui aborde la situation complexe des aidants face aux problématiques liées à l'alimentation et à la santé. Rendez-vous au 16 boulevard du Terrier Blanc, l'entrée est gratuite mais sur inscription. À Noyers-Maupertuis, Christine Coton, graphopédagogue, vous donne des conseils à vous et à votre enfant ou ado concernant l'écriture manuscrite et sa rééducation. Vous pouvez réserver un créneau de 30 minutes entre 16h30 et 19h sur le site écritureserene.fr. Ça se passe au cabinet de graphopédagogie Écriture Sereine au 17 rue des Bordes à Noyers. Non mais tu rêves ? C'est le titre du spectacle proposé par les étudiants du pôle Aliénor à 18h15, un spectacle tout public et gratuit qui se déroule à la Rotative, au 48 Avenue de la Liberté, Buxerolles. À 20h30 enfin, au TAP Castille, avant-première du film Le Roman de Jim, c'est une fiction réalisée par Jean-Marie et Arnaud Larieux qui porte sur la paternité. Elle vous est présentée dans le cadre des projections des films cannois au TAP qui a commencé hier et se terminera le 25 juin.
Merci beaucoup Isabelle, on te retrouve dès demain 8h pour Espace Matin avec toute l'équipe des étudiants bénévoles. Sur Pulsar, ce soir 19h c'est Change Doers et 20h Metal Fury. Merci Yann pour la réalisation technique. Je vous propose de se quitter avec Claudine, c'est une chanteuse et illustratrice italienne, artiste émergente de la scène pop. Bon après-midi, à demain.
E mi sbatti in faccia un'altra porta. Dove sei? Dove sei? Non ci sei, sei fuggita un'altra volta. Un'altra volta. Sa come farsi odiare, mette tutti contro. Ma per punire sé condanna il mondo. Quando ti voglia, ti va bene poi ti passa. Torturi la tua vita con impegno. E quel povero Cristo ti amava, l'hai tirato scemo. Con i tuoi hai avuto sempre da dire, ma ci prova davvero. E potrei lasciare stare, giuro ogni secondo. L'hai per punire se condanna al mondo.